En quelques dizaines d'années, ils ont colonisé la France et rendu les Français étrangers en leur propre pays. Avec la complicité des autorités systématiquement de leur côté, ils sont venus bouleverser traditions et modes de vie. Ils se sont mis à imposer leur fonctionnement, leurs lois, et exclu de leur représentation ceux dont ils avaient envahi le territoire. À la faveur d'une organisation territoriale pensée pour leur faciliter la vie, après avoir pourri les villes où ils étaient concentrés, ces populations se déversent maintenant sur les campagnes et les petites villes. Et ne vous y trompez pas, ils viennent pour prendre tout ce qu'il y a à prendre, quitte pour cela à égorger vos fils et vos compagnes. Je parle bien évidemment, vous les aurez tous reconnus, des Parisiens. Vous vous attendiez à autre chose. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui nous allons donc parler de la colonisation de la France par les Parisiens. Mais attention, pas n'importe lesquels. Alors à ce sujet, j'avais une introduction de prévue pour cette vidéo, mais le jour où je devais tourner, j'ai vu passer cette vidéo de France Culture qui explique qu'il faut raser la moitié des villages pour leur redonner vie. Et je me suis dit que ça introduisait parfaitement le problème. Parce que oui, comme vous l'aurez vu, nous en sommes là. Des experts dans les médias du service public qui expliquent qu'il faut détruire des villages. Enfin, France Culture n'emploie pas le mot détruire, ce n'est pas assez progressiste. Il nous propose plutôt de déconstruire les maisons inhabitées de certains villages afin d'en faire des propriétés plus grandes avec des terrains plus grands. D'après l'expert en question sollicité par France Culture, ce serait ce que veulent les Français aujourd'hui. Grandes propriétés avec des grands jardins. En vrai, c'est surtout ce à quoi aspirent les bourgeois parisiens et leurs homologues des grandes villes qui rachètent les campagnes pour les transformer en lieux de résidence secondaire. Parce que les gens des villages, des bourgs et des petites villes, ben, ils aimeraient déjà bien pouvoir vivre en accédant à la propriété au pays et en travaillant au pays. Cette vidéo de France Cucu n'est pas un cas isolé, elle n'est que l'expression de l'un des multiples aspects de la nouvelle forme de colonisation qui s'est instaurée en France, où les gens de métropole usent de leurs privilèges pour s'accaparer la terre en province, en expliquant aux gens du coin comment vivre, et ce, avec l'appui des autorités et le système juridico-légal derrière eux. Ces autorités, à tous les niveaux de l'État, octroient à ces bourgeois des métropoles des privilèges que l'on pourrait qualifier de privilèges coloniaux. Vous allez voir que je n'emploie pas le terme au hasard, sur les habitants de la France périphérique. Pourquoi ? Parce que les autorités, nationales comme locales, eh bien sont les rouages d'un système organisé par et pour la classe dirigeante dans son propre intérêt. Et cet intérêt, tout comme les colonisateurs d'il y a quelques siècles, c'est le pillage. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles sorties. Par ailleurs, si le sujet de la nouvelle colonisation vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à mon nouveau livre « Il est venu le temps des producteurs » qui traite de cette question et de bien d'autres, qui explique comment la classe dirigeante a organisé le grand pillage de la France et qui donne bien sûr, sinon ce ne serait pas complet, des pistes pour s'en sortir. Ce livre est pour le moment en phase de précommande, vous pouvez le précommander jusqu'au 1er avril et le lien pour ce faire est juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Je remercie au passage tous les gens qui ont déjà précommandé le livre et ce faisant ont permis d'en financer l'impression. Quant à nous, on va en revenir à nos petits colons parisiens. Il y a des villages en France qui sont désertifiés, qui sont habités 2 mois dans l'année. Des petites villes, notamment sur le littoral, dont le parc immobilier est constitué jusqu'à 70% par des résidences secondaires. Des villes moyennes, où il est impossible d'accéder à la propriété quand on ne peut pas s'aligner sur les sommes déboursées par les Parisiens arrivant en TGV qui se cherchent une résidence secondaire au vert. Pour comprendre la cause de tout cela, il faut en revenir à la destruction consciente et volontaire de l'outil de production en France. Car dans un passé relativement encore proche, en France, il y avait du travail partout, y compris dans les petits villages. Au-delà de la production agricole, qui est difficilement délocalisable, enfin jusqu'ici, parce que malheureusement, c'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Bref, fut un temps pas si éloigné où la France, des petites villes et des villages, comptait un certain nombre d'usines où l'on fabriquait ce dont nous avions besoin. Et le travail était plutôt équitablement réparti sur le territoire. Bien sûr, il n'y avait pas que dans les petites villes et dans les petits villages qu'il y avait des usines, évidemment. Il y en avait aussi en ville, il y en avait beaucoup dans les villes moyennes et dans les grandes villes. Néanmoins, les petits villages n'étaient pas en reste en termes d'activité. Aujourd'hui, à la faveur des décisions prises par les dirigeants politiques de ces 5 dernières décennies, ces usines, qui étaient installées partout en France et qui permettaient de répondre aux besoins des Français, eh bien, elles sont parties à l'autre bout du monde ou aux confins de l'Europe. Les dirigeants ont tertiarisé l'économie, c'est-à-dire qu'ils nous ont transformés, même si pas complètement, en un pays de services. Et ils ont concentré ces activités dans les grandes villes, et particulièrement Paris, et surtout d'abord à Paris, mais pas uniquement. Ces grandes villes, elles ont drainé des pans entiers de la population en âge de travailler, et ce, évidemment, au détriment des villages et des petites villes qui abritaient anciennement l'outil de production. Car l'outil de production qui s'en va, c'est le travail qui part, et en conséquence, les gens qui doivent travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, qui partent pour aller en chercher ailleurs. Et en conséquence, l'essentiel des commerces et des services, qu'ils soient publics ou privés, se sont petit à petit amenuisés, voire ont carrément disparu dans certains endroits de la France périphérique. Et ça, c'est bien sûr le fruit de décisions volontaires et conscientes, et ça a été organisé, ce n'est pas l'effet du hasard, bien sûr. Sont donc partis de ces petites villes, de ces villages, voire des villes moyennes, où il n'y avait plus de travail. Je pense à des villes comme celle où j'ai grandi, qui s'appelle Villerue, qui est une ville dans le nord de la Lorraine, et dont l'activité, comme celle de toute la région, d'ailleurs, enfin de tout le pays, était tournée autour de la production de fer et d'acier. Et à partir des années 70, eh bien, ces mines et puis surtout ces usines qui y étaient localisées, elles ont fermé, elles ont été délocalisées, et les gens qui travaillaient sur place, eh bien, se sont retrouvés sur le carreau. Du coup, forcément, beaucoup de chômage, donc beaucoup moins d'argent à redistribuer dans l'économie des services. Donc, la vie, en fait, c'est pas juste l'activité économique, mais c'est la vie même qui, petit à petit, s'est délitée dans cette région. Et la région où j'ai grandi n'est jamais qu'un exemple, peut-être un peu plus symbolique, parce qu'il y a eu des très grandes grèves à Longwy, à cet endroit-là, justement pour empêcher, ça n'a pas réussi, mais voilà, la destruction de cet outil de production. Néanmoins, c'est ce qui est arrivé dans toute la France. Donc sont partis de ces endroits-là ceux qui pouvaient se permettre de se reconvertir de leurs emplois dans le secteur secondaire au secteur tertiaire. Et ceux qui travaillaient déjà dans les services, eh bien, sont partis là où les services et l'activité étaient concentrés, à savoir dans les villes. Pas à 100% évidemment, parce qu'il y a quand même, et heureusement, des gens qui sont restés et qui ont tenté de reconstruire ce qu'ils pouvaient sur place et de pallier le bouleversement qui était en train de se produire et qui était un bouleversement historique. Mais à cette époque-là, les gens n'en avaient pas forcément conscience, puisque c'était le quotidien de ce qu'ils vivaient à un instant T. Et les gens du pays haut pouvaient pas forcément se douter que la même chose arrivait dans toutes les petites villes de France. Et que, en quelques décennies, ça allait donner une carte sociale de la France complètement différente de celle qu'ils connaissaient jusqu'alors. Et je vais m'arrêter un instant sur l'immobilier, parce que je trouve qu'il incarne bien le mouvement général. À partir des années 70-80, les grandes villes ont vu leur parc immobilier prendre en quelques dizaines d'années donc énormément de valeur, quand celui des petites communes et des moyennes communes ont plutôt eu tendance à en perdre. Les métropoles, et d'abord et avant tout Paris, se sont mises à concentrer tous ceux qui pouvaient encore se permettre d'y loger, à savoir les cadres, tous les gens qui avaient des emplois dans le consulting, dans la finance, dans le marketing ou dans les services, des emplois à haute valeur ajoutée mais totalement improductifs, et autour d'eux, dans les banlieues, et notamment, encore une fois, avec en tête de gondole la région parisienne, où se sont concentrés les populations tout aussi improductives, mais pas avec les mêmes revenus, les populations de services directs aux habitants des centres-villes. En gros, leur larbin impossible à délocaliser, comme la garde d'enfants, le ménage ou la livraison de drogue, par exemple. Ah bah oui, c'est inclus dans le PIB, je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Et de là, partout ailleurs, dans la France dite périphérique, se sont retrouvés tous les Français qui travaillaient, anciennement ou encore, dans la production, qu'ils aient toujours vécu là, et qui ne s'étaient pas fait chasser par la hausse des prix de l'immobilier là où ils vivaient, ou bien qu'il s'agisse de personnes qui n'avaient pas troqué leur bleu de travail contre un tablier ou un vélo de livraison, qui eux ont été chassés des grandes villes, à la fois par l'impossibilité financière de s'aligner sur les prix de l'immobilier, mais aussi par la fermeture des usines. Puisque il n'y avait plus de travail sur place, donc les gars se sont retrouvés au chômage, donc au niveau revenu, ça suivait plus, et comme ils ne voulaient pas faire les boulots littéralement de larbin que les gens concentrés dans les métropoles préféraient donner à de la main d'œuvre souvent étrangère et donc corvéable à merci, ils se sont retrouvés complètement exclus des métropoles et de leur aire d'influence. Et je n'invente rien, hein, les chiffres sont formels. 45% des Parisiens actifs sont aujourd'hui des cadres ou exercent des professions intellectuelles supérieures. La moyenne nationale dans la population active des cadres, elle est de 19%, hein, c'est le chiffre de 2019, aujourd'hui ça doit être autour de 20%, alors qu'ils étaient seulement 8% de la population active en 1982. Et revers de la médaille, dans les territoires ruraux, les ouvriers sont le premier groupe d'actifs, là où ils représentent quasiment rien dans la population active parisienne. Suite à cette première étape, les cadres parisiens, qui avaient donc par leur concentration à Paris chassé de cette ville les anciens travailleurs productifs ou les travailleurs productifs, petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution des choses et des décennies, eh bien, eux aussi, ils ont commencé à trouver la région parisienne un petit peu chère. Donc c'est là qu'est intervenu, à point nommé, vous me direz, le TGV, financé d'ailleurs par l'argent public, qui a été pensé dans le cadre de la métropolisation pas seulement des villes françaises, hein, mais de toutes les villes. Enfin, c'est un mouvement qui s'est opéré dans toutes les villes occidentale et donc européenne. Hein. Le TGV a vraiment été pensé dans le cadre du développement des lignes à grande vitesse au niveau européen, permettant de relier des métropoles concentrant l'essentiel de l'activité. Bref, ce TGV a permis à n'importe quel cadre parisien d'aller dans une autre grande ville en quelques heures et donc de se loger là-bas. Et il se trouve que ces grandes villes étaient beaucoup moins prisées et donc beaucoup moins chères que Paris. C'est ainsi qu'ils se sont, on va dire, exportés, voilà, qu'ils ont créé des annexes à la métropole parisienne. Ils ont fait la même chose, en fait, que ce qu'ils avaient déjà fait à Paris, dans plusieurs autres grandes villes. Et ces autres grandes villes ont été transformées en métropole. Hein, je pense à Lille, à Nantes, à Strasbourg, à Marseille. Il y a une vingtaine aujourd'hui de métropoles en France, et même des petites villes ou des villes moyennes essayent d'appartenir à ce club très sélect, sauf que tout le monde ne peut pas être un habitant de métropole, comme on va le voir. Et d'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse sur le terme de métropole, pour le lier avec la question de la colonisation qui nous occupe. Le mot métropole, c'est le terme qui était employé à l'époque de la colonisation pour désigner le centre de pouvoir et de décision de l'empire colonial par opposition aux colonies. Donc, peut-être qu'ils l'ont pas fait exprès, mais en tout cas, le terme est extrêmement bien choisi, comme nous allons le voir. Et là aussi, donc dans ces nouvelles métropoles, ils ont établi leur modèle. Ils se sont concentrés dans le centre-ville, ont gardé leurs serviteurs en proche banlieue et ont viré les producteurs loin, très loin, le plus loin possible, puisque de toute façon, il n'y avait plus d'usines en ville. Donc ils n'avaient pas besoin d'ouvriers au chômage dans les centres-villes. Et dans ces nouvelles métropoles, là aussi, les prix sont devenus de plus en plus prohibitifs, en même temps que la qualité de vie s'y dégradait. Et pas uniquement au niveau financier, mais également au niveau sécurité et hygiène. Parce que oui, concentrer des populations, souvent immigrées, comme je l'ai dit, car corvéables à merci de surcroît, dans des cages à poules et dans des tout petits espaces, sans les intégrer, et en ne profitant que du fait qu'ils servent de larbin, c'est clairement pas le meilleur plan sur le long terme. Et tandis que le confort de la situation, où ils avaient absolument tout à portée de main, ou maintenant à portée de clic, leur faisait oublier que si le larbin en vélo pouvait leur apporter à manger, c'est parce qu'il y avait des gens ailleurs, hein, qui produisaient la bouffe, eh bien ils ont, dans le même temps, de par leur mode de vie, littéralement pourri les villes et leurs environs, en excluant encore plus tous les gens qui y étaient restés et qui n'avaient non seulement plus de raison d'y rester, mais carrément des raisons de les fuir et de s'en aller le plus loin possible de ces trous à merde. Il faut dire les mots à un moment. Mais vous vous en doutez bien, ça n'a pas suffi à redynamiser tous les villages désertés. Cependant, ces bourgs, en partie déserts, n'auront à terme pas été perdus pour tout le monde. Car ce qui est moins désirable devient du même coup moins cher, Et l'inverse se trouve vrai aussi. Et le TGV qui amenait les cadres parisiens jusqu'à Strasbourg, eh bien, il pouvait aussi bien les larguer au milieu de la campagne, genre à Meuse TGV, qui est un endroit que je connais très bien, et se loger à moins d'une heure de Paris, 59 minutes, dans des endroits perdus au milieu de la campagne, des régions essentiellement agricoles, mais où ils allaient pouvoir développer des villes nouvelles, des bureaux de start-up, et faire monter là-bas les prix de l'immobilier. Tout ça pour fuir leur ville devenue invivable à cause de leur mode de vie dégénéré. Vous voyez, c'est un processus qui a mis quelques décennies à se mettre en place, mais qui est très logique et très cohérent, puisque c'est à partir de là qu'ils se sont mis à coloniser le reste de la France. Car fort de salaires de cadres, beaucoup plus rassurants, à la fois pour les agents immobiliers et pour les banques, eh bien ils se sont mis donc à acheter des propriétés dans le reste de la France, celles qui étaient accessibles en TGV. Pas forcément pour y vivre, hein, faut pas déconner, il n'y a même pas de Uber pour eux. Mais pour se faire des résidences secondaires dans un petit coin au vert. Et depuis le Covid, des résidences de télétravail. Et là non plus, je n'invente rien, car les chiffres de l'INSEE sont là aussi très parlants. 16% des Parisiens possèdent une résidence secondaire dans un autre département. Le chiffre est de 14% pour les habitants des Hauts-de-Seine, le département collé à Paris. Pour les habitants de l'Hexagone, le pourcentage de personnes qui possèdent une résidence secondaire dans un autre département est de 5,7%. Je peux pas dire mieux que les chiffres à un moment. Hein. Mais évidemment, cet afflux de Parisiens, eh bien, ça pose un problème pour les habitants de la France périphérique. Parce que les Parisiens qui achètent dans des endroits accessibles en TGV, parfois sans même négocier les prix, parfois sans même visiter, eh bien, ça fait monter les prix. Et ça crée, pour les habitants du coin, dont on a vu qu'ils étaient en majorité ouvriers, là où les Parisiens sont plutôt cadres, donc avec les salaires correspondants, eh bien ces gens ont commencé à avoir des difficultés croissantes pour se loger et pour accéder à la propriété. Et la hausse des taux d'intérêt de ces derniers mois, qui est aussi une conséquence hein, du système économique dans lequel nous vivons, mais là j'ai pas le temps de revenir dessus, elle va rien arranger et elle va garantir encore le privilège des cadres de métropole qui pourront se permettre d'acheter. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des villages et des bourgs déserts. Avec certains, ceux qui ont la chance de pouvoir développer le tourisme, eh bien, qui se mettent à dépendre malgré eux de ces mêmes touristes pendant 2 mois par an, mais qui le reste de l'année se retrouvent sans service, sans commerce, parce qu'il y a toujours plus de travail, parce que les autorités en ont viré l'outil de production autant qu'ils le pouvaient en tout cas. Et s'il s'agissait seulement d'un phénomène immobilier, je pense qu'on ne pourrait pas parler de colonisation. Si j'emploie ce mot, ce n'est évidemment pas au hasard, et c'est pas juste parce que ils utilisent le même mot pour parler de leur ville que celui qui était le mot des colons pour désigner là d'où on prenait les décisions. C'est aussi un phénomène qui relève de la domination culturelle, car les Parisiens ne viennent pas, on va dire, s'installer dans ces contrées exotiques de province pour changer de vie en s'intégrant au coin où ils installent leur résidence secondaire. En fait, ils importent avec eux leur mode de vie, c'est-à-dire exactement le même qui a déjà pourri les grandes villes. Et là, ils viennent expliquer aux habitants du coin comment il faut manger, comment il faut construire leur maison, ou les déconstruire du coup, comment se chauffer, comment respecter la nature, ce qui est peut-être le truc le plus ironique dans tout ce bousin, et le tout en dénigrant les cultures, les traditions locales, voire en intentant des procès contre des coqs chanteurs ou des agriculteurs qui démarrent le tracteur à 6h du matin et que, mon Dieu, ça fait du bruit. Donc en fait, quand ils viennent, ils amènent avec eux les problèmes de la ville. Et le fait d'être épargné par ces problèmes de la ville, c'est précisément tout ce qui restait jusqu'ici aux habitants de la France périphérique. Et maintenant, de manière croissante, depuis quelques années hein, maintenant déjà, eh bien ils s'entendent donner des leçons. Ils sont explicitement exhortés à adopter les mêmes comportements que ceux des habitants de métropole, en s'entendant dire que c'est pour entrer dans la modernité et le progrès. Et peu importe que les solutions qu'on leur amène n'aient absolument rien à voir avec les besoins du terrain, ils s'en foutent. Il y a des mecs qui viennent chez eux pour leur expliquer, en somme, que c'est des arriérés. Voilà. Et si c'était un phénomène qui concernait exclusivement, on va dire quelques dizaines de milliers d'individus qui agiraient de la sorte de manière inconcertée. Ce serait pas une offensive coloniale, mais c'est qu'ils ont derrière eux l'appui des médias et des institutions. Ils sont aidés par les médias, qui sont d'ailleurs, comme c'est bizarre, localisés à Paris et dans les métropoles, médias qui passent, quand ils sont pas occupés à essayer de nous convaincre d'aller faire la guerre à 5000 km, leur temps à donner des leçons sur le logement le chauffage, la viande, la chasse, aux gens de la France périphérique, voire carrément à expliquer aux agriculteurs comment est-ce qu'il faut qu'ils fassent leur métier, et ce, depuis les métropoles où ils sont littéralement en train de manger ce que produit cette France qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a une certaine ironie, en fait, à expliquer à des gens qui permettent encore de nourrir le pays, qu'il faudrait qu'ils changent leur manière de faire pour réduire la production. Mais ces médias et tous les intellectuels et les gens influents du monde de la culture hein, qui y paradent, évidemment, ils ne sont pas à l'initiative du système lui-même. Ils sont trop bêtes pour avoir créé de toute façon un système aussi, on va dire, efficace, enfin jusqu'ici. On va dire que si les Parisiens en résidence secondaire peuvent être vus comme les colons du 21e siècle, hein, vous savez, ceux qui partent dans les colonies et parfois avec beaucoup de bienveillance et qui peuvent rentrer en métropole se la péter de connaître bien les sauvages. Voilà, les journalistes, les intellectuels et les membres du monde de la culture, on peut plus les assimiler à des colons de la pensée. Parce qu'ils imposent leur ordre et leur domination, pas physiquement comme les cadres parisiens en résidence secondaire, mais via des canaux de communication par lesquels la France périphérique reçoit ses informations. Et d'ailleurs, les habitants de la France périphérique se disent de manière croissante que les médias en question sont quand même de plus en plus déconnectés de leur vie et pour cause. Mais disons que si les médias ont évidemment une responsabilité plus importante que celle du petit parisien un peu neuneux, les médias seuls, ne sont rien. Hein, toute propagande, toute idéologie, ce n'est jamais qu'un outil, c'est un instrument au service de quelque chose, en général au service d'un projet politique. Et les médias dominants, ainsi que la plupart des intellectuels et des gens du monde de la culture, ils sont au service d'une organisation sociale. Et c'est en fait l'existence de cette organisation sociale qui va nous permettre de parler d'entreprise coloniale. Car ce sont bien les dirigeants, les autorités, qui entérine par la loi, via les institutions, la transformation des modes de vie et qui impose la relation de domination entre les habitants des métropoles et ceux de la France périphérique qui doivent se plier à leurs injonctions. Ce sont les dirigeants politiques qui, par la loi, en utilisant les institutions, organisent la société de manière à ce que le système, le jeu tout entier, soit favorable aux gens des métropoles au détriment des petites et moyennes communes. En d'autres termes, ce sont bien les dirigeants politiques qui, par la loi, en utilisant les institutions, ont établi légalement un véritable privilège colonial, qu'il soit économique, culturel ou social, en faveur des habitants des métropoles. En parallèle, ces mêmes autorités impose toujours plus de contraintes qui sont prétendument destinées à tout le monde, mais qui pèsent beaucoup plus lourd pour les habitants de la France périphérique. Ça va être des contraintes aussi bien financières, hein, la hausse du prix de l'essence affecte beaucoup plus les gens qui vivent à 40 km de leur lieu de travail ou d'un hôpital ou à 10 km d'un supermarché que le bobo de centre-ville qui va faire ses courses à la Biocoop en 3 minutes à pied ou en trottinette électrique. Et vraiment, c'est presque caricatural de voir à quel point la fracture géographique, les inégalités de possibilités de déplacement viennent refléter l'organisation sociale où le colon, l'habitant de la métropole, possède un privilège sur l'habitant de la France rurale ou de la France des petites et moyennes communes. Aux gagnants de la mondialisation, le TGV, la possibilité financière et physique de se déplacer là où ils veulent. Aux perdants de la mondialisation, la disparition des lignes de proximité et l'obligation de débourser toujours plus en faisant le plein, ne serait-ce que pour se rendre au travail. Aux habitants des métropoles, la protection de la qualité de leur air, via l'imposition très récente hein, des ZFE, les zones à faibles émissions, et aux habitants des communes rurales, le revers de la médaille de ces ZFE, à savoir l'interdiction pour eux de se déplacer en ville, alors même que le travail, les médecins, les services s'y sont retrouvés concentrés. Aux bourgeois des métropoles, tous les droits, un système organisé dans leur intérêt, pour leurs bénéfices et par eux, et aux producteurs, le seul droit d'accepter et de la fermer en payant toujours plus cher l'essence, en payant toujours plus d'impôts, en devant faire toujours plus d'efforts pour trier son compost alors qu'ils en ont un chez eux depuis toujours, en s'entendant dire qu'il faut que désormais ils acceptent d'avoir froid, d'avoir faim, des coupures de courant, des coupures d'eau, là où les habitants des métropoles, vous n'y pensez pas, on ne va quand même pas couper l'électricité, c'est là qu'il y a les hôpitaux. C'est ce que nous avait dit le ministre. Et ces mêmes habitants, ces colonisés de la France périphérique, eux voient tous les jours, depuis leur village où ils deviennent de facto assignés à résidence, apparaître et se répandre comme une tache d'huile, tous les signes visibles de la colonisation poussée toujours plus loin par la classe dirigeante. À ce titre, il y a un exemple, moi, qui me frappe vraiment, c'est celui des énergies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes, et aussi, dans une moindre mesure pour le moment, les méthaniseurs. Car s'il y a un sujet qui incarne à la perfection l'entreprise coloniale, c'est bien celui du déploiement des énergies renouvelables. Au nom de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est désormais prétexte à toutes les attaques contre notre mode de vie, et à ce sujet on va même pas mentionner le fait que l'empreinte carbone d'un habitant de centre-ville est infiniment plus élevée que celle du retraité de la mine à côté de chez moi, qui vit extrêmement chichement, mais bref, donc sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique, le déploiement de ces panneaux solaires, de ces éoliennes, sont entérinés par les dirigeants politiques, inscrits dans la loi comme des obligations, peu importe les besoins ou les possibilités sur le terrain. Il faut un certain pourcentage désormais de éoliennes ou de méthaniseurs ou de panneaux solaires sur chaque commune, au détriment de la population locale, hein, parce qu'on s'en fout, c'est imposé aux habitants des campagnes, mais jamais aux citadins, hein, puisque tu vas pas mettre une éolienne derrière la tour Eiffel. Par contre, dans les Ardennes, tout le monde s'en fout. Imposé donc par des services de l'État qui se sont transformés eux-mêmes en une espèce d'administration coloniale au service du projet colonisateur, installé en plus de manière totalement anarchique, non organisée et non planifiée, par des start-up improductives, dont les sièges sont localisés dans les grandes villes évidemment, vendues par des courtiers de métropole à des propriétaires privés qui font ce qu'ils veulent, hein, mais quand même, quand c'est des agriculteurs, souvent le couteau sous la gorge, le tout financé par l'argent public, donc celui des taxes et des impôts, toujours plus élevés, payés par les habitants de la France périphérique, et tout ça dans le but, non pas de produire de l'électricité, hein, parce que si le but c'était de produire de l'électricité, on aurait mis des centrales nucléaires, mais avec pour objectif d'engraisser les fonds d'investissement internationaux qui possèdent tout en haut les parcs. Voilà. Le système est quand même bien, très bien rodé. Et nos dirigeants politiques, qu'ils soient français ou européens, ils ne sont même pas ce que j'appellerais l'échelon le plus haut dans la hiérarchie de ce système, même s'ils en sont très proches, hein, évidemment, et que parfois ils en sont aussi directement membres. C'est que cette organisation sociale, cette organisation de la société, eh bien elle a été faite par et pour la bourgeoisie financière qui s'est établie comme classe dirigeante depuis les années 70. Cette bourgeoisie financière, c'est les détenteurs des capitaux et des titres de propriété et de dette des entreprises. Donc en fait, ce sont les véritables propriétaires des moyens de production. Et leur vocation, je ne vais pas le dire comme un jugement, mais comme un fait, c'est de vendre le plus cher possible quelque chose qu'ils auront produit, enfin qu'ils auront produit, on s'entend, qu'ils auront fait produire par d'autres, à un coût le plus bas possible. Donc en fait, leur boulot, c'est littéralement de sucer le plus possible de sang et d'en obtenir le profit le plus important possible. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste comme ça que le monde fonctionne. Désolée si je viens éclater vos illusions au sol, hein, pour certains naïfs, mais voilà. Le fait que la classe à la tête de l'organisation sociale depuis 50 ans et comme vocation, eh bien, le pillage, hein, tout simplement, le pillage des ressources et des fruits de la production, c'est exactement, en fait, la même vocation qu'avait la classe qui a été à l'initiative du processus colonial. Et de là, les dirigeants, les décideurs, les institutions, les lois, la justice, eh bien, sont faites par la classe dirigeante pour eux, afin de garantir que le système fonctionne dans leur intérêt. Et leur intérêt, c'est la survie. Donc, c'est encore une fois, c'est assez logique, hein, la manière dont c'est organisé. Donc, comme ces homologues qui ont colonisé l'Afrique d'ailleurs déjà bourgeois parisiens à l'époque, même si il ne s'agit absolument pas de la même bourgeoisie qu'aujourd'hui. Il y avait quand même un autre niveau, et j'ai envie de dire à l'époque, ils ont aussi apporté un progrès technique et scientifique en France. Bref, la classe dirigeante d'aujourd'hui, comme eux, a besoin de s'enrichir de manière illimitée. Sauf qu'en retour, ils donnent rien. Là, on en est au stade où ils ont tellement dégénéré que leur raison d'être, leur nature, qui est de croître sans fin, commence à se faire au détriment de tout le reste. Et s'il faut tuer le reste pour gratter un petit peu plus, eh bien ils le feront en fait, ils le font déjà. Et le pillage, l'accaparement de la terre, la spoliation de la ressource, l'exploitation des producteurs, c'est le fondement de toute entreprise coloniale. Un empire colonial ne se fait pas par idéologie, ce n'est pas à cause du racisme, ce n'est pas la volonté d'apporter la lumière et la civilisation qui fait qu'une classe va coloniser des pays ou des régions dans le monde. Ce ne sont que des justifications qui se font a posteriori. Les États-Unis n'ont pas bombardé l'Irak pour le pétrole, ils ont bombardé l'Irak pour leur apporter la liberté et la démocratie. États-Unis, dont d'ailleurs la classe dirigeante et la bourgeoisie financière est celle qui se trouve au sommet de la pyramide de l'ordre mondial, et dont notre bourgeoisie à nous, en fait, n'est qu'à l'échelon en dessous. Mais encore, enfin, c'est encore une autre question, et j'en ai déjà parlé en fait dans une vidéo où je vous ai fait un petit peu tout l'historique de ça, donc je vous mets sans doute le lien par là ou par là, et puis je vais vous le mettre aussi dans la description parce que c'est assez intéressant de voir l'évolution du bousin. J'en reviens à mon sujet, une idéologie donc n'existe pas sur du vide, et contrairement à ce que pensent d'ailleurs les intellectuels de salon parisien, et notamment les gauchistes, la colonisation, comme toute relation oppressive, véritablement oppressive, je parle pas d'utiliser « il » quand quelqu'un se définit comme « iel » ou je ne sais quoi. Je parle de l'oppression réelle et concrète, et de l'exploitation réelle et concrète des gens. Mais bon, voilà, donc ça se fonde, justement, comme toute relation oppressive, ça se fonde sur du concret, sur du matériel. Car le fond de l'affaire, c'est bien la question économique. C'est celle qui est au cœur du projet des élites. Et qu'ensuite, ils justifient par tout un tas d'offensives idéologiques de plus en plus délirantes et de plus en plus pétées, mais encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on parle pas là de richesses immatérielles, de crypto-monnaies, ni de la spéculation. Même si ces choses-là contribuent à donner l'illusion que la classe dirigeante continue de croître, alors qu'en fait, on va dire c'est l'écran de fumée qu'elle met devant elle, mais là, on parle bien de l'exploitation de la richesse qui provient de la production des ressources et des biens concrets. Voilà, c'est ce qui permet la survie. C'est ça qui est au cœur de tout. L'eau, le bois, la terre, mais aussi les moyens de production, les usines, les outils qui permettent d'extraire, de transformer les ressources en biens matériels qui permettent la survie du groupe social, mais aussi parmi les moyens de production, évidemment, la force de travail humaine. Le truc, c'est que normalement, dans une société normale, le groupe dominant fait en sorte d'assurer la survie de tout le groupe. Parce que, en gros, tous les éléments de la société contribuent à leur niveau, de leur côté, à la survie générale. Et la survie générale garantit en retour la survie de chacun. Et tout ce petit monde accepte le fonctionnement de la société, ainsi que la nécessité d'avoir à la tête de tout le bousin un groupe pour tout organisé, parce que le gars qui produit la bouffe, bah, il a pas le temps de s'occuper de la sécurité, et il a pas non plus le temps de s'occuper de combien on va produire d'électricité pour que tout le monde puisse avoir de la lumière en hiver. Et c'est ça qui donne à un groupe social la légitimité à diriger la société. C'est le fait qu'elle organise la société dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de la survie de tout le monde. C'est ça, diriger, donner à la société, dans son ensemble, une direction à suivre. Pas d'imposer des normes et des lois de manière absurde, mais juste de dire en fait il faut qu'on aille là, il faut qu'on soit indépendant, il faut qu'on survive ensemble, et donc nous on vous propose d'organiser la société de telle manière. Donc ça c'est dans une société normale. Le hic c'est que depuis l'accession de la bourgeoisie financière à la tête de l'organisation sociale, nous ne sommes plus dans une situation normale. Et on voit très clairement et de plus en plus distinctement pourquoi aujourd'hui la manière dont ils organisent la société non seulement est défaillante, mais en outre va nous conduire, si elle continue, à notre mort à tous, pure et simple, en tant que société et donc en tant qu'individu. Ah oui, si on accepte l'idée que c'est la production qui est au cœur de la survie d'un groupe, production d'énergie, d'alimentation et de biens matériels nécessaires. Prenons un groupe au hasard, par exemple la France. On va être d'accord sur le fait que, pour survivre, les Français ont intérêt à produire ce dont ils ont besoin le plus possible en France, afin de ne pas dépendre, par exemple au hasard, de pays à l'autre bout du monde qui peuvent très bien décider d'arrêter de nous livrer s'ils le souhaitent. Et là vient l'obstacle principal à la possibilité de survie de la France, c'est que la classe dirigeante, la bourgeoisie financière, pour assurer sa propre survie, elle a besoin que l'outil de production en France disparaisse. Hein, c'est ce qu'elle a fait en désindustrialisant, en délocalisant, et c'est ce qu'elle continue de faire en essayant de tuer nos agriculteurs pour les remplacer par les agriculteurs ukrainiens qui coûtent beaucoup moins cher aux propriétaires véritables des moyens de production. Et parce qu'elle a besoin en permanence de faire croître sa richesse, eh bien elle a besoin de piller toujours plus loin tout ce qu'elle n'a pas encore pillé. Et si rien n'est fait pour l'en empêcher, ce processus va la mener à tuer la France. Littéralement, je parle. Prenez ce qu'elle est en train de faire comme processus d'exploitation et menez ça à son aboutissement. Au bout, pour nous, il y a la mort. C'est donc exactement le contraire de ce dont nous avons besoin en tant que nation. Et c'est là le problème. C'est que là où passe la bourgeoisie financière, elle pervertit, elle corrompt, elle détruit. Et ce, à tous les échelons. Depuis le petit colon parisien qui achète sa résidence secondaire et impose son mode de vie, jusqu'à l'actionnaire de la société d'investissement propriétaire de centaines d'hectares de terres cultivables de notre pays sur lesquelles sont implantés des panneaux solaires. Tous ces gens-là, à chacun à leur niveau, font l'œuvre de la classe dirigeante. Et France Culture, de par le fait qu'elle est le média, qu'elle est l'un des médias de cette classe dirigeante, elle ne peut pas promouvoir autre chose que ce fonctionnement-là. La bourgeoisie financière, par nature expansionniste, elle ne vit que par l'accumulation sans fin de la richesse. Donc elle la prend. Elle organise la société pour pouvoir prendre cette richesse. Et comme un parasite, elle va continuer de prendre tant que nous ne l'arrêterons pas. Évidemment, c'est un système très bien rodé qu'elle a établi ces dernières décennies. C'est elle qui a fait les règles du jeu pour la servir, en fait. Donc évidemment, à ce jeu-là, la France ne peut pas gagner. Et ce jeu-là, je reviens à France Culture, mais raser les trois quarts des maisons en pierre des villages pour en faire des propriétés plus grandes pour les résidences secondaires des Parisiens, on sera d'accord que non seulement ça va pas régler le problème, mais que ça va contribuer à l'aggraver, en fait. Donc moi, je me pose quand même une question, hein, quand ils auront déconstruit les villages, est-ce que ces néocolons vont s'en retourner dans leur métropole, en laissant évidemment derrière eux un champ de ruines, pour aller coloniser autre chose? Et j'ai envie de vous dire peut-être, mais ce serait oublié, que les campagnes en France sont aujourd'hui un peu le dernier bastion. C'est-à-dire, c'est le dernier truc que, pour le moment, ils n'ont pas réussi à complètement prendre. Et les gens qui vivent là, il n'y a plus nulle part où les repousser. Tu vas pas les renvoyer en ville, en fait. Ils ont trop d'instinct de survie pour s'en retourner dans ces endroits-là. Et si la bourgeoisie ne sait rien faire d'autre que piller, alors qu'elle vit dans le confort que lui procure le pillage, eh bien son règne a produit, dans sa frénésie dévastatrice, et ce, comme toutes les formes de tyrannie, ça a donné naissance aux gens qui vont la renverser. Qui seront en capacité, en tout cas, de la renverser. Est-ce qu'ils le feront ou pas, je ne sais pas. Et ces gens en capacité de la renverser, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Et il se trouve qu'ils produisent aussi toutes ces choses dont les bourgeois des métropoles ont besoin, comme la nourriture, par exemple, au hasard. Tous ces gens qui, pendant quelques décennies, ont dû apprendre à faire avec. Et surtout, qui ont appris à faire sans, qui ont survécu à l'effondrement des structures collectives autour d'eux, qui ont survécu à la disparition progressive des services, qui ont pallié la destruction de leur outil de travail en faisant ce qu'il fallait pour survivre, qui ont reconstruit autrement, difficilement, qui ont fait, malgré les dirigeants et les belles personnes qui ont essayé de les écraser, qui ont essayé de les faire disparaître tout en leur prenant ce qu'ils avaient réussi à construire, ces gens sont encore là. Et pendant ces quelques décennies, ils ont eu le temps de voir la nature du système, ils ont eu le temps de voir qui étaient ces agents. Ils se sont forgés dans l'adversité, tandis que la classe dirigeante et ceux qui dépendent d'elle sont devenus, donc de par le confort et la facilité procurée par l'exploitation du travail des autres, faibles. Ils ne savent plus rien faire. Les habitants des métropoles ne savent plus rien faire. Ils sont devenus des espèces de fragiles. Et d'ailleurs, les tendances postmodernes, intersectionnelles, voilà, en sont en fait des symptômes de ça. Mais les autres, ils arrivent au point de rupture en fait. Et ils commencent à prendre conscience que pour survivre, ce qu'ils savent très bien faire, eh bien, il va falloir commencer par décoloniser la France. Virer l'envahisseur. En l'occurrence, pas détruire Paris en tant que ville, pardon, déconstruire, mais virer la classe dirigeante qui pille, qui vole, qui a ses quartiers à Paris et dans les métropoles et qui organise la société à son avantage. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne bien qu'il n'y a rien à attendre de la classe dirigeante. Ils ne vont pas changer, ils ne vont pas devenir gentils et se mettre subitement, du jour au lendemain, à travailler dans l'intérêt national. Ça n'arrivera pas. Hein, l'histoire, elle ne revient pas en arrière. Et la bourgeoisie, qui a été patriote et qui a contribué au développement de la France, elle ne redeviendra pas cela. Elle ne redeviendra pas patriote. Donc il faut d'autres gens, il faut une autre classe qui puisse se hisser à la tête de l'organisation sociale pour décoloniser la France. Et les seuls qui ont la capacité et la légitimité nécessaires à prendre la place pour organiser la société, ce sont les producteurs. Ceux que la classe dirigeante n'a pas réussi à achever malgré ses tentatives et dont nous dépendons tous, nous Français, pour notre survie. La balle est maintenant dans le camp des producteurs. Ce sont eux qui doivent reprendre le pays en main, décoloniser les espaces et les esprits et organiser enfin la société autour d'eux afin que la France puisse vivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si le sujet vous intéresse, eh ben ça tombe bien, j'ai écrit un bouquin entier là-dessus où je développe tout ça de manière bien plus complète et bien plus détaillée. Ce livre, il s'appelle « Il est venu le temps des producteurs ». Oui, maintenant, vous avez la chanson dans la tête. Et vous pouvez le précommander sur la page Tipeee qui est dédiée. Je vous mets le lien donc juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez commander le livre jusqu'au 1er avril. Vous le recevrez autour de la mi-mai, a priori. Au-delà de ça, je ne sais pas encore quand sera la date de sortie officielle. Vraisemblablement, ce sera à la rentrée, donc si vous le précommandez, vous le recevrez mi-mai et vous aurez le livre à peu près 3 mois avant qu'il ne soit disponible, j'espère, en librairie. Voilà, donc le lien est donc en description sous la vidéo, vous avez toutes les infos là-dessus. Au-delà de ça, je remercie évidemment tous les tipeurs, les anciens et les nouveaux qui ont permis de faire vivre la chaîne jusqu'ici, qui me permettent de vous proposer des analyses que vous n'entendez nulle part ailleurs dans les médias avec une liberté de ton et de choix de sujet totale, enfin dans la limite de ce que YouTube autorise, qui se restreint de plus en plus jour après jour, mais c'est une autre question. Donc merci à vous, merci également à tous ceux qui mettent des commentaires, des pouces vers le haut, qui partagent les vidéos depuis ces quelques années qu'on chemine ensemble sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite bien sûr à donner votre avis dans les commentaires, ainsi qu'à la partager autour de vous pour lui donner de la visibilité et créer du débat sur le sujet. Je ne doute pas qu'il sera fructueux. Je rappelle donc que le lien pour commander mon livre où je développe toutes ces questions est juste en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent le commander. Merci à tous ceux qui l'ont déjà précommandé et qui lui ont permis d'exister concrètement. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, surtout comme d'habitude, prenez soin de vous.